viens donc voir ce qu'un bel oiseau bleu a posé sur mon lit. » Et elle l'emmena dans sa chambre sans qu'il pût refuser. Elle y avait allumé les deux flambeaux. Toute la vieille chambre souriante, avec ses tentures d'un rose fané si tendre, semblait transformée en chapelle. Et, sur le lit, tel qu'un linge sacré, offert à l'adoration des croyants, elle avait étalé le corsage en ancien point d'Alençon. « Non, tu ne te doutes pas. Imagine-toi que je n'ai pas vu le carton d'abord. J'ai fait mon petit ménage de tous les soirs, je me suis déshabillée, et c'est lorsque je suis venue pour me mettre au lit que j'ai aperçu ton cadeau. Ah, quel coup! Mon cœur en a chaviré. J'ai bien senti que jamais je ne pourrais attendre le lendemain. Et j'ai remis un jupon et j'ai couru te chercher. » Alors seulement, il remarqua qu'elle était à demi nue, comme le soir d'orage où il l'avait surprise en train de voler les dossiers. Et elle apparaissait divine dans l'allongement fin de son corps de vierge, avec ses jambes fuselées, ses bras souples, son torse mince, à la gorge menue et dure. Elle lui avait pris les mains, elle les serrait dans ses mains à elle, de petites mains de caresse enveloppantes. « Que tu es bon et que je te remercie. Une telle merveille, un si beau cadeau, à moi qui ne suis personne ? Et tu t'es souvenu, je l'avais admirée, cette vieille relique d'art. Je t'avais dit que la Vierge de Saint-Saturnin seule était digne de l'avoir aux épaules. Je suis contente, oh, contente ! Car c'est vrai, je suis coquette, d'une coquetterie, vois-tu, qui voudrait parfois des choses folles, des robes tissées avec des rayons, des voiles impalpables, faits avec le bleu du ciel. Comme je vais être belle ! Comme je vais être belle ! » Radieuse, dans sa reconnaissance exaltée, elle se serrait contre lui, en regardant toujours le corsage, en le forçant à s'émerveiller avec elle. Puis, une soudaine curiosité lui vint. « Mais, dis, à propos de quoi m'as-tu fait ce royal cadeau ?» Depuis qu'elle était accourue le chercher, d'un tel élan de gaieté sonore, Pascal marchait dans un rêve. Il se sentait touché aux larmes par cette gratitude si tendre. Il restait là, sans la terreur qu'il y redoutait, apaisé au contraire, ravi, comme à l'approche d'un grand bonheur miraculeux. Cette chambre, où il n'entrait jamais, avait la douceur des lieux sacrés, qui contentent les soifs inassouvies de l'impossible. Son visage, pourtant, exprima une surprise, et il répondit « Ce cadeau, ma chérie, mais c'est pour ta robe de noces !» À son tour, elle demeura un instant étonnée, n'ayant pas l'air de comprendre. Puis, avec le sourire doux et singulier qu'elle avait depuis quelques jours, elle s'égaya de nouveau. « Ah, c'est vrai, mon mariage !» Elle redevint sérieuse. Elle demanda « Alors, tu te débarrasses de moi. C'était pour ne plus m'avoir ici que tu tenais tant à me marier. Me crois-tu donc toujours ton ennemi ?» Il sentit la torture revenir. Il ne la regarda plus, voulant être héroïque. « Mon ennemi, sans doute, ne l'es-tu plus. Nous avons tant souffert l'un par l'autre ces mois derniers. Il vaut mieux que nous nous séparions. Et puis, j'ignore ce que tu penses, tu ne m'as jamais donné la réponse que j'attendais. » Vainement, elle cherchait son regard. Elle se mit à parler de cette nuit terrible où ils avaient parcouru les dossiers ensemble. C'était vrai, dans l'ébranlement de tout son être, elle ne lui avait pas dit encore si elle était avec lui ou contre lui. Il avait raison d'exiger une réponse. Elle lui reprit les mains. Elle le força à la regarder. Et c'est parce que je suis ton ennemi que tu me renvoies ? Écoute donc, je ne suis pas ton ennemi, je suis ta servante, ton œuvre et ton bien. Entends-tu ? Je suis avec toi et pour toi seule. » Il rayonnait, une joie immense s'allumait au fond de ses yeux. Je les mettrai, ces dentelles. Oui, elles serviront à ma nuit de noces, car je désire être belle, très belle, pour toi. Mais tu n'as donc pas compris. Tu es mon maître. C'est toi que j'aime. » D'un geste éperdu, il essaya inutilement de lui fermer la bouche. Dans un cri, elle acheva. « Et c'est toi que je veux !»« Non, non, tais-toi, tu me rends fou. Tu es fiancé à un autre, tu as engagé ta parole. Toute cette folie est heureusement impossible. L'autre, je l'ai comparé à toi et je t'ai choisi. Je l'ai congédié, il est parti, il ne reviendra jamais plus. » Il n'y a que nous deux, et c'est toi que j'aime, et tu m'aimes, je le sais bien, et je me donne. » Un frisson le secouait, il ne luttait déjà plus, emporté dans l'éternel désir, à étreindre, à respirer en elle toute la délicatesse et tout le parfum de la femme en fleurs. « Prends-moi donc, puisque je me donne !» Ce ne fut pas une chute. La vie glorieuse les soulevait. Ils s'appartinrent au milieu d'une allégresse. La grande chambre complice, avec son antique mobilier, s'en trouva comme emplie de lumière. Et il n'y avait plus ni peur, ni souffrance, ni scrupule. Ils étaient libres. Elle se donnait, en le sachant, en le voulant. Et il acceptait le don souverain de son corps, ainsi qu'un bien inestimable que la force de son amour avait gagné. Le lieu, le temps, les âges avaient disparu. Il ne restait que l'immortelle nature, la passion qui possède et qui crée, le bonheur qui veut être. Elle, éblouie et délicieuse, n'eut que le doux cri de sa virginité perdue. Et lui, dans un sanglot de ravissement, l'étreignait toute, la remerciait, sans qu'elle pût comprendre, d'avoir refait de lui un homme. Pascal et Clotilde restèrent aux bras l'un de l'autre, noyés d'une extase divinement joyeuse et triomphant. L'air de la nuit était suave, le silence avait un calme attendri. Des heures coulèrent dans cette félicité à goûter leur joie. Tout de suite, elle avait murmuré à son oreille, d'une voix de caresse, des paroles lentes, infinies. « Maître, oh, maître, maître !» Et ce mot, qu'elle disait d'habitude, autrefois, prenait